Vous écoutez
RMC. RMC Bartoli Time. Benoît Boutron.
Marion Bartoli.
Il est tout pile 20h, vous êtes bien sur RMC, vous êtes bien dans Bartoli Time également. Et c'est mon dernier Bartoli Baston de l'année. Alors là, je vais finir en fanfare les amis. Donc j'étais obligée bien évidemment de faire un Bartoli Baston sur tennis. Vous me connaissez. Et pour cela, j'ai invité mon copain, celui avec qui je commente Roland-Garros, Arnaud Clément. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu?
Arnaud qui va arriver dans une seconde. Marion, il sera avec nous. Arnaud Clément, finaliste de l'Open d'Australie en 2001. Donc il sera là pour tempérer tes ardeurs.
Arnaud, tu aurais quand même pu battre André Agassi. Si, en finale, écoute.
Ah bah tu lui diras quand il sera là.
Ouais, je vais lui dire.
Bon, sachez qu'on suit également attentivement le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Pour l'instant, une affiche à vous signaler. Bastia-Nice, ça promet à Fouriane entre ces deux clubs où les supporters ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. On vous tient informé de la suite du tirage et on fera le point complet lorsque tous les matchs seront désignés. 20h01, vous écoutez RMC, mais tu l'as dit, on parle donc du revenant Nick Kyrgios.
Je veux jouer contre Sinner à l'Open d'Australie. Je n'attends que ça. Et si je le joue, je ferai en sorte que chaque personne dans le public soit contre lui. J'essaierai de déclencher une émeute, un soulèvement contre lui. J'abandonnerai tout respect. Je ferai n'importe quoi pour gagner.
RMC Bartoli Baston.
Et justement, on vous parle de Nick Kyrgios dans un instant. Petit détour tout de même par le Stade Bollard, parce que c'est la suite et la fin des 32e de finale de la Coupe de France. C'est la plus belle affiche de ces 32e avec ce match entre Lens et le Paris Saint-Germain. À Bollard, on retrouve Jean Baumel et Jeannot Rességuier. Salut les gars.
Bonsoir Benoît, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Marion.
Soyez les bienvenus. Bonsoir. Est-ce que vous avez les compos d'équipe, messieurs, pour ce match?
Oui, et les corons aussi.
Et les corons,
ça sera la mi-temps.
C'est ça.
C'est la mi-temps et en milieu de deuxième mi-temps. Ouais. Allez, on va commencer avec Lens qui reçoit donc Kofi Hervé de son prénom, son premier match en tant que titulaire puisque Samba est blessé dans les buts. Et puis on va en passer une défense à 5 alors qu'on était à 4 ces derniers temps et ça marchait bien. Avec Machado piston gauche, Frankowski piston droit, on aura Medina Danso Kouchanov donc dans l'axe de la défense. Thomasson, Elaynaoui, Zarouri et devant on aura Fulgini et Enzola.
Et pour le Paris Saint-Germain, je ne vais pas vous placer les joueurs parce qu'on ne sait jamais comment ils vont finir par être placés par Luis Enrique. Ça, c'est mon pari de fin d'année 2024 et ça sera comme ça en 2025.
Jeannot fait une boule de Noël sur ta feuille. C'est ça le truc.
Safonov sera dans les buts puisque vous savez que
ça, a priori, oui.
Donc, voilà, Donnarumma est blessé. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Ça va pour la ligne de défense. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz. Et alors devant, vous vous débrouillez comme vous voulez. Dembélé, Doué et Kang In-Li. Voilà pour les choix Luis Enrique. C'est possible. Lee peut être très bien attaquant axial et Doué côté gauche. Non mais j'ai dit que je ne positionnais plus les joueurs du PSG. Donc voilà la liste des joueurs pour jouer contre le Racing Club de Lens. Puisque Luis Enrique aime s'amuser, ben moi aussi je vais m'amuser. Voilà.
Lens PSG 21h sur RMC ce soir. Avant match dès 20h30 dans l'After Live autour de Simon Dutin, donc Jeannot Rességuier et Jean Baumel qu'on salue, à qui on souhaite un bon match. 20h04, parlons donc de tennis parce que ça y est, la grande gueule du tennis est de retour sur les cours après 16 mois d'absence liée à une blessure au poignet. Nick Kyrgios est de retour, il a participé à la World Tennis League à Abu Dhabi cette semaine, il est motivé comme jamais, surtout il est très énervé contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Je vous rappelle que Sinner est toujours sous la menace d'une suspension après deux contrôles antidopage positifs cette année. Déclaration fracassante de Kyrgios dans un podcast américain: si jamais je joue Sinner à l'Open d'Australie, je ferai en sorte que chaque personne dans le public soit contre lui, j'essaierai de déclencher une émeute, un soulèvement contre lui, j'abandonnerai tout respect, je ferai n'importe quoi pour gagner. Alors ce soir, Bartoli Bastogne, Marion, tu veux condamner les propos de Nick Kyrgios et notre invité est là, Arnaud Clément, ancien finaliste de l'Open d'Australie. Salut Arnaud.
Bonjour à tous, salut Marion.
Merci Arnaud de prendre quelques minutes pour être avec nous.
Bah bien sûr, non mais je le disais, non mais Arnaud, quand même, t'aurais pu faire un effort contre Dédé en finale, franchement.
Ouais, mais tout le monde n'est pas capable de gagner une finale de grand chelem comme toi, Marion. C'est le moment où on s'envoie des fleurs, j'aime bien.
Non, mais si, fallait juste que t'en fasses une deuxième aussi, j'ai paumé la première.
Ouais, bref, passons. D'en faire deux.
Arnaud,
j'étais déjà au rupteur avec une, moi.
Et Arnaud, je croyais que t'allais lui répondre, mais moi j'ai joué André Agassi. Mais bon, non.
Voilà. On a joué les plus grands, Marion, elle les a battus.
Tiens, Marion, je glisse juste cette information, on fera le tirage complet des 16e de finale de Coupe de France, mais sachez que Marseille sera opposé à Lille. Magnifique affiche pour les 16e de finale de la Coupe de France. Énorme choc à vivre mi-janvier.
Je suis pas contente. Bref, on va y arriver sur notre dit. Alors, comme je me suis exprimée ce matin dans les GG du sport, j'aimerais tout d'abord laisser la main à mon copain Arnaud Clément, avec qui je commente avec très grand plaisir chaque année Roland-Garros, et avoir déjà ton point de vue, puisque il a attaqué notre Nico Mahut national. Je pense que tu as vu ses déclarations très récentes d'aujourd'hui. Donc déjà, toi, sur les faits, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a répondu à Nico, qu'est-ce que t'en penses ?
À Nico Mahut ?
Oui, en fait, Nico Mahut a réagi et ensuite Nick Kyrgios a encore répondu à Nico Mahut.
Alors ça, j'ai pas vu. Non, moi j'ai pas vu. J'ai vu les déclarations.
En gros, la réponse Arnaud à Nico Mahut, c'était personne ne sait qui c'est Nico Mahut. En gros, c'était encore un manque de respect pour un autre.
Il lui a dit comme tu sais pas jouer ensemble, t'as pas le droit de me parler. Voilà, je la fais très
court. Écoutez, c'est un petit peu dans le même sens de ce qu'il a pu dire sur Sinner. En fait, quelque part, c'est dans le même esprit. Alors moi, ça me dérange un peu parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé commenter. Alors il joue plus, donc on peut plus le commenter parce que quand il joue, il se passe toujours quelque chose. Mais au-delà de ce qui peut se passer sur le terrain, de rigolo, du coup de colère, du côté un petit peu too much, il y a du tennis derrière. Il y a un côté qui est spectaculaire. C'est un très très beau tennis qui est pratiqué, hyper spectaculaire, capable de battre les plus grands dans un grand jour. Donc ça, c'est le côté sympa. Il faut qu'il y ait tout. Là, il n'y a plus de tennis et il y a des déclarations. Vu qu'on le voit plus, on a l'impression qu'il a besoin d'exister un peu, Nick Kyrgios aujourd'hui, et il le fait au travers de déclarations. Moi, ça me dérange profondément le côté irrespect déjà des joueurs en général. C'est pas la première fois que ça arrive. Il en a eu aussi des déclarations envers Rafael Nadal qui étaient profondément irrespectueuses. Là, il y a deux choses différentes. Il y a l'irrespect par rapport à Nico Mahut, respect qu'il a gagné, je pense, par rapport à sa carrière. Oui. On a le droit de lui répondre, à Nick Kyrgios. On a le droit de pas être d'accord avec lui. Et après, le plus dérangeant peut-être encore, c'est ce qu'ils disent sur Sinner. C'est un peu un appel à la haine, quelque part, quoi. Qu'est-ce qu'il cherche? Moi, je trouve que même ces déclarations sont à la limite du condamnable par les instances dirigeantes. Alors, oui, c'est vrai. Il appuie, en plus, sur un point qui est assez facile, sur le cas de Yannick Sinner. On sait que c'est un cas qui est complexe, qui est pas forcément très bien traité, très bien communiqué. Et qui est encore en instance de jugement. C'est pas impossible, que Yannick Sinner, il soit suspendu dans les mois qui viennent. Donc, il appuie en plus sur un endroit pour dire, Yannick Sinner, regardez, en plus, c'est un tricheur, il devrait pas jouer, et si jamais je le joue. Alors, ce qui pourrait être vraiment rigolo, par contre, parce que je crois vraiment que si c'était amené à s'affronter dans les premiers tours de l'Open d'Australie, en fait, ça serait quand même, pour moi, un match qui serait assez rapide pour un Yannick Sinner. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse lutter contre le tennis de l'Italien, qui est un petit peu dans un système de jeu à la Djokovic qui lui va pas du tout bien lui convenir, surtout avec un manque de compétition certain pour l'Australien. Donc non, c'est un gros, pour moi c'est un gros carton rouge. Vraiment, c'est carton rouge pour Nick Kyrgios. Et encore une fois, à la base, c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine affection, parce que il a ce tennis, mais il faut que le tennis aille avec le reste, avec son côté un peu différent, excentrique. Je veux être différent, je veux ouvrir ma gueule, mais ok, mais il faut que le tennis aille avec, et il faut assurer. Là, on le voit plus, et il l'ouvre pour moi un petit peu trop.
Alors, vu que vous êtes plutôt d'accord sur le sujet, est-ce que je peux me faire l'avocat du diable, l'avocat de Nick Kyrgios?
Attention.
Je condamne comme vous l'appel à la haine, comme vous dites, et l'extravagance de ce propos. Mais est-ce qu'on peut pas réfléchir au fond du problème tout de même, et cette injustice ressentie par un joueur comme l'est Nick Kyrgios, qui certes est retiré des circuits depuis des mois, mais qui a la phobie, peut-être la haine du dopage dans le tennis, voit que s'il y a un peu d'opacité autour de tout ça, parce que il y a un organe spécialisé dans le tennis pour traiter les affaires de dopage. On l'a vu ensuite avec Iga Swiatek en fin d'année, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pas non plus un message qu'il veut faire passer, se faire le porte-parole d'autres joueurs et de dire maintenant ça suffit, on règle les affaires de dopage et on met les choses au clair, Marion, tu vois. Ok, il y a l'extravagance signée Kyrgios, mais le fond du message, peut-être qu'il est tout de même audible, tu vois.
Non, plusieurs éléments. Bon, tout d'abord, je suis complètement d'accord avec Arnaud sur le fait qu'effectivement, quand Kyrgios joue à son meilleur niveau, c'est un tennis que tout le monde aime regarder parce qu'il se passe quelque chose sur le terrain, parce qu'il est capable de jouer des coups que quasiment lui seul est capable de faire sur un court. Et que donc, il y a une attractivité tennistique et certaine, ça personne ne pourra lui enlever, on lui enlèvera jamais, ça c'est sûr. En revanche, moi, ce que je trouve, qui est vraiment dommageable dans sa personnalité, c'est qu'il a des moments où il peut être extrêmement charmant. Donc là, je vois qu'il a essayé de se réconcilier avec Casper Ruud, alors qu'il avait allumé Casper Ruud sur les réseaux sociaux en disant que c'était un joueur en carton-pâte, qui savait pas jouer, qui se demandait comment il était pour être en finale de Grand Chelem, qui gagnait, qui jouait que des 250 et que c'est comme ça qu'il avait son classement. Bon, là, il s'est réconcilié avec lui puisqu'il a joué en double à Abu Dhabi, hier.
Ouais.
Donc, cette partie où il arrive, je pense, à faire quand même un tout petit peu autocritique et à se dire, bon là, j'ai quand même dépassé les limites et j'avais pas besoin de faire ça, c'est le Nick Kyrgios qu'on aime. Parce que il aura toujours cette partie de cette personnalité qui sera plus explosive que d'autres. Mais quand ça reste dans les limites de l'acceptable, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Là, le problème, si tu veux, c'est que il se sert d'un micro-truc, effectivement, sur le dopage de Sinner pour, comme l'a dit Arnaud, aller beaucoup trop au-delà de tout ce qui est acceptable d'entendre. Des joueurs se sont exprimés sur le fait que ouais. Qu'il y ait l'ITIA d'un côté, qu'il y ait l'AMA de l'autre qui fasse appel, qu'on ne comprenne absolument plus rien à qui fait quoi, qu'il y ait des instances supplémentaires qui soient intégrées comme ça dans notre temps, et Arnaud le confirmera, il n'y avait pas l'ITIA en plus, il y avait l'AMA qui vous faisait des contrôles antidopage, inopinés ou en compétition, vous aviez vos résultats, point. C'était contrôlé positif ou négatif, et puis il y avait une sanction ou pas de sanction si vous étiez négatif. Là, le problème, c'est qu'en rajoutant des instances, en rajoutant des personnes qui viennent juger, en rajoutant des avocats au milieu qui s'y mettent, et qui sont payés des fortunes pour arriver à défendre des cas, qui arrivent toujours à trouver un système de défense, c'est effectivement dommageable pour le tennis. Et ça, je suis d'accord. Que, par exemple, l'ATP ait décerné le trophée du joueur préféré des fans à Sinner, je pense qu'ils auraient pu largement s'en passer. Ils le donnaient à Alcaraz, par exemple, raison. Et ça aurait choqué personne. Ouais. Donc, en fait, il y a des problèmes de communication. Ça, on est complètement d'accord. Mais là où Arnaud appuie, et je suis totalement aligné avec lui, c'est que l'appel comme ça à la haine de l'autre.
Ah, ça non, oui.
On peut pas cautionner ça. Et qu'en plus, Nico Mahu lui répond quelque chose quand même d'assez neutre en lui disant, mais écoute, Kyrgios a le droit de s'exprimer, mais moi je suis pas d'accord avec ses convictions, et qui lui disent entre guillemets, bah toi tu te la fermes parce que t'es un joueur en carton-pâte. Bah non, au bout d'un moment, non, trop ouais. C'est trop. Donc oui, on l'aime pour son tennis, pour ce qu'il est capable de faire sur un court quand il joue, parce que là pour l'instant il joue pas. Qu'il a limite, il y a un tout petit peu le trash talk, ça fait partie du personnage, mais pas dans des dépassements de plus aucun respect de rien. Parce qu'on est quand même un sport avec un certain respect. Donc l'ATP, ça va être très intéressant parce qu'il y a justement une règle, et j'en ai parlé ce matin dans les GG, une règle très claire dans l'article que les joueurs signent, parce qu'on a une charte à signer chaque année, que vous êtes soit un joueur sur le circuit ATP ou une joueuse sur le circuit WTA, où vous engagez du coup à suivre cette charte. Et là, il y a un article très clair et très clairement, avec ses déclarations, il enfreint cet article. On va voir si l'ATP commence à taper quand même un tout petit peu du poing sur la table et va dire, écoutez, là, il va y avoir des sanctions. On sait qu'à un moment donné, vous voulez qu'il voit un psychologue, parce qu'il avait aussi dépassé les bornes sur une tournée asiatique. C'est quand même un joueur qui était capable de balancer sa chaise de un tournoi à Rome, de prendre sa chaise à côté de lui sur un petit court extérieur et de la balancer au milieu du court quand même.
On parle pas de quelqu'un qui.
Voilà, exactement. On parle pas de quelqu'un. On parle pas de quelqu'un. On parle pas d'Arnaud sur le terrain qui avait un comportement irréprochable. Tu vois, on est quand même dans l'opposé total. Dans l'opposé total.
Bon, et ben voilà.
Donc l'avocat du diable, écoute, oui, tu auras quand même du mal à le défendre.
Non, mais il s'en prend pas. Pour moi, il s'en prend pas aux personnes en fait. S'il a envie de s'en prendre, il s'en prend aux instances. Aujourd'hui, c'est les instances qui jugent le cas Sinner. On s'en prend pas à Sinner. Après, on verra ce que les instances vont dire. Et il ne faut pas oublier ce que c'est l'ATP Tour. L'ATP Tour, c'est l'association des joueurs et des tournois. 50% du poids de l'ATP Tour, c'est l'association des joueurs, les joueurs. Donc, à un moment donné, si les joueurs ils sont alignés avec Nick Kyrgios, ils peuvent faire en sorte de faire changer un système, de faire changer un règlement. S'ils veulent plus de transparence, on pensait que ça l'était et on s'est rendu compte que ça l'est pas forcément à 100%, en tout cas au moins dans la... dans la structure à un moment donné, justement, de cette des contrôles, des résultats et de la communication. Donc, si c'est pas le cas, s'ils veulent un système différent, ils ont le droit à un moment donné de l'exiger et ça de le faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, le sujet, il est complètement hors sujet. Siner, voilà, Siner, c'est très clair, il y a une négligence qui est certaine. Est-ce qu'on juge que ça vaut deux semaines, un mois, un an ou deux ans? Ça va être jugé.
Ouais, c'est la main qui rendra son verdict. Merci Arnaud d'avoir été avec nous.
En tout cas, il patauge tellement qu'il y a quand même un joueur sur le Masters à Next Gen à Jeddah qui a eu un contrôle pendant le match. Donc là, ils sont quand même tellement paniques que le joueur
a
été contrôlé pendant le match.
C'est la preuve que le système a besoin d'être réformé. Merci Arnaud d'être venu.
Merci à vous. Bonne fête.
Merci Arnaud. 20h15 sur RMC. On revient dans un instant. Bartoli Time. Encore un dernier quart d'heure. On va évoquer le combat de boxe de cette fin d'année entre Usyk et Fury. Nouvelle victoire.
Franchement, Benoît, t'as quasiment le même gabarit que Usyk.
Ah, t'as vu? Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Pas loin.
On va faire encore un peu de muscu, tu seras en début, allez, premier trimestre l'année prochaine, tu y es.
Allez, c'est mon défi, c'est ma résolution 2025, pourquoi pas. Et puis je vous donnerai l'intégralité du tirage des 16e de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle juste qu'il y aura ce choc entre Marseille et Lille, autre choc entre clubs de Ligue 1, Reims-Monaco notamment, ou encore Brest face à Nantes. Bartoli Time revient dans un instant, ne bougez pas.